Chapitre 7. Le plan au sujet de l'Arad Doman.
Une tempête approche,
dit Ninevée, campée devant une des grandes fenêtres.
Je crois, oui,
approuva Deigan, assise dans un fauteuil près de la cheminée. Elle ne prit même pas la peine de regarder par la fenêtre.
Tu dois avoir raison, très cher. On jurerait que le ciel est plombé depuis des semaines.
10 jours,
rectifia Ninevée, une main refermée sur sa longue natte. Elle tourna la tête vers sa compagne.
Mais depuis, je n'ai pas vu un carré de ciel bleu.
Deigan plissa le front. Potelée et tout en courbe, cette sœur blanche portait une petite gemme sur le front, comme Moiraine dans un lointain passé. Cependant, celle de Deigan était une pierre de lune, comme il se devait. Apparemment, cette tradition signalait une noble dame du Kairien. Même chose pour les 4 rayures de couleur sur la robe de Deigan.
10 jours?
S'enquit Deigan.
Tu es sûr?
Ninevée en aurait mis sa natte à couper. Surveiller le climat, c'était une des tâches de la sage-dame d'un village. Devenue une Aes Sedai, elle n'en restait pas moins ce qu'elle était. Après tout, le climat était toujours présent dans un coin de son esprit. Dans les murmures du vent, elle sentait l'approche de la pluie, du soleil ou de la neige. Ces derniers temps, les murmures étaient des cris lointains qui se faisaient de plus en plus forts. Parfois, on eût dit l'écho de vagues s'écrasant les unes contre les autres. Toujours assez loin au nord, mais de plus en plus difficile à ignorer.
« Eh bien, » dit Deigan, « je suis sûr que ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le ciel est couvert pendant 10 jours. »
Ninevée secoua la tête, puis tira sur sa natte.
« Ce n'est pas normal, »
insista-t-elle.
« Et quand je parle d'une tempête qui approche, ça n'a rien à voir avec ces nuages. La mienne est encore lointaine, mais elle viendra tôt ou tard, et elle sera terrible, bien pire que toutes celles que j'ai vues. » « Dans ce cas, »
fit Deigan, mal à l'aise,
« nous l'affronterons quand elle sera là. Tu veux bien t'asseoir que nous puissions continuer ?»
Ninevée étudia sa collègue blanche, connue pour être d'une extrême faiblesse dans le pouvoir. Peut-être la sœur la plus inapte qu'elle ait jamais rencontrée. Selon une loi tacite mais non codifiée, ça autorisait Ninevée à avoir de l'autorité sur elle. Manque de chance, le statut de l'ancienne sage-dame n'était toujours pas clair. Comme Elaine, Egwene l'avait élevée au rang d'Aes Sedai par décret, sans épreuve, et sans jamais qu'elle ait juré sur le bâton des serments. Pour la plupart des sœurs, y compris celles qui voyaient en Egwene la véritable chair d'Amyrlin, ces lacunes empêchaient Ninevée d'être une authentique Aes Sedai. Plus une acceptée, certes, mais pas l'égale d'une sœur. N'ayant pas choisi entre la Tour Blanche et les rebelles, les sœurs qui suivaient Katsuane étaient les pires. Si on oubliait celles qui avaient juré allégeance à Rand. Encore loyale à la Tour Blanche, la plupart de ces femmes ne voyaient aucun problème à soutenir à la fois Rand et Elaïda. Mais où Rand avait-il donc eu la tête, autoriser des sœurs à lui jurer fidélité? En plusieurs occasions, Ninevée lui avait démontré que c'était une erreur, mais s'adresser à lui ces derniers temps, surtout en tenant un discours rationnel, revenait à dialoguer avec un rocher, en moins efficace et beaucoup plus énervant. Deigan attendait toujours que Ninevée daigne s'asseoir. Plutôt que de disputer un bras de fer, l'ancienne sage-dame céda. Deigan souffrait vraiment beaucoup d'avoir perdu Eben, la chamane qu'elle avait pris pour champion, lors de la bataille contre les rejetés, près de Shadar Logoth. Ninevée, elle, ne s'était aperçue de rien, car elle se concentrait pour fournir à Rand une extraordinaire quantité de Saïdar à tisser. Comme si c'était hier, elle se souvenait de l'euphorie qu'elle avait éprouvée en puisant une telle quantité de pouvoir. Se sentir vivante ainsi avait quelque chose de presque effrayant. En secret, elle se réjouissait que le Terran Gréal qu'elle utilisait ait été détruit. Mais le Terran Gréal masculin restait intact. Une clé pour accéder à un incroyable sang Gréal. Pour ce que Ninevée en savait, Rand n'avait pas encore convaincu Katsuane de lui rendre l'artefact. Tant mieux. Aucun être humain, y compris le dragon réincarné, ne devait être en mesure de canaliser autant de pouvoir. Ce qu'on risquait d'être tenté de faire avec une telle puissance. Ninevée avait dit à Rand qu'il devait renoncer à cette clé. Oui, autant parler à un rocher aux cheveux roux et à l'air parfaitement idiot. Ninevée grogna à sa propre intention, ce qui incita Deigan à arquer un sourcil. Cette femme contrôlait bien son chagrin à première vue. Mais la nuit, dans la chambre du manoir d'Omani contiguë à la sienne, Ninevée l'entendait pleurer pendant des heures. Perdre un champion n'était pas facile.
L'âne.
Non. Il valait mieux ne pas penser à lui. Pour l'instant, il était en sécurité. À la fin d'un voyage de centaines de lieues, ça se gâterait, parce qu'il se jetterait seul contre les ténèbres à la manière d'une flèche qui fond sur un mur de briques.
Non, il ne sera pas seul. J'ai fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas.
Très bien,
dit Ninevé, se forçant à revenir au moment présent.
Continuons.
À Deigyan, elle ne témoignait aucune déférence. En fait, elle lui faisait une faveur, la détournant de son chagrin. C'était la théorie de Corel, en tout cas. Quoi qu'il en soit, leur rencontre ne bénéficiait pas à l'épouse de l'âne, parce qu'elle n'avait rien à prouver. Elle méritait le châle, quoi qu'en pensent ou en disent les autres. Ses cours n'étaient qu'un prétexte pour aider Deigyan, rien d'autre.
« Voici le 81e tissage »,
annonça la sœur Blanche. Le halo du Saïdar l'enveloppant, elle canalisa un tissage très complexe de feu, d'air et d'esprit. Sophistiqué, certes, mais totalement inutile. Trois cercles de feu lévitant dans l'air et très brillants. À quoi ça pouvait servir? Ninevé savait déjà comment générer des boules de feu et de lumière. Pourquoi perdre son temps à apprendre des tissages qui faisaient doublon et lui compliquaient la vie? D'abord, pourquoi chaque cercle devait-il être d'une couleur légèrement différente? Distraitement, Ninevé copia le tissage.
« Franchement,
dit-elle,
c'est le plus inutile de toute la série. À quoi est-il censé servir ?»
Deigyan fit la moue et ne dit rien. Ninevé devina sans peine ce qu'elle pensait. Tout ça aurait dû être beaucoup plus difficile pour une presque sœur.
« On ne peut pas trop t'en dire au sujet de l'épreuve, »
finit par lâcher Deigyan.
« Tout ce que j'ai le droit de te révéler, c'est que tu devras reproduire très précisément ce tissage, et ce en étant exposé à une source extrême de déconcentration. Quand l'heure viendra, tu comprendras. » « J'en doute, »
grogna Ninevé, en générant trois fois le tissage tout en parlant.
« Ne te l'ai-je pas dit une bonne dizaine de fois? Je ne passerai pas l'épreuve, parce que je suis déjà une Aes Sedai. » « Bien sûr que tu en es une, très chère. »
Ninevé serra les dents. Une mauvaise idée, tout ça. Quand elle avait abordé Corel, membre du même âge qu'elle, la sœur avait refusé de la considérer comme une égale. Elle l'avait dit courtoisement, comme toujours avec elle, mais la fin de non-recevoir ne faisait pas de doute. Fidèle à sa nature, elle s'était même montrée compatissante. Compatissante. Comme si Ninevé avait eu besoin qu'on la plaigne. Si elle possédait sur le bout des doigts les 100 tissages requis pour passer l'épreuve, avait ajouté Corel, Ninevé aurait nettement amélioré sa crédibilité. Le hic, c'était que l'ancienne sage-dame, dans cette affaire, redevenait une étudiante. Bien entendu, elle avait conscience que maîtriser les 100 tissages était un plus. Toute sœur savait ça. Mais encore fallait-il avoir eu le temps de les étudier. En acceptant des leçons maintenant, Ninevé reconnaissait implicitement qu'elle était toujours une aspirante. Elle voulut tirer sur sa natte, mais se ravisa. Son explosivité émotionnelle expliquait en partie pourquoi les autres Aes Sedai lui battaient froid. Le prix à payer quand on n'avait pas un visage sans âge. Le tissage suivant apparut avec un petit bruit d'explosion. Comme toujours, il était absurdement complexe. Ninevé le mémorisa puis le reproduisit sans cesser de penser à autre chose. Les traits de marbre, Deigyan contempla un long moment son tissage.
« Que se passe-t-il »
demanda Ninevé.
« Pardon ? Oh, rien du tout. C'est juste que... la dernière fois que j'ai réalisé ce tissage, c'était pour surprendre... mais oublions ça. »
Ébène, bien sûr. Il était très jeune, 15 ou 16 ans, et Deigyan l'aimait beaucoup. Ensemble, ils jouaient comme un adolescent et sa sœur aînée, pas comme une Aes Sedai et son champion.
« Un gamin de 16 ans, mort, »
pensa Ninevé.
« Rand est-il obligé de les recruter si jeune ?»
Deigyan durcit son expression. Quand il fallait contrôler ses émotions, elle était bien meilleure que Ninevé.
« Veuille la lumière que je ne porte jamais le même deuil qu'elle, »
pensa l'ancienne sage-dame.
« Ou en tout cas, pas avant 10 années. »
En réalité, l'âne n'était pas encore son champion, mais ça ne tarderait pas. En outre, elle l'avait épousé. Mais pour l'heure, Mirel détenait toujours le lien.
« Je pourrais t'aider, Deigyan, »
dit Ninevé, une main posée sur le genou de sa compagne.
« Une guérison, peut-être ? Non. Mais tu ne peux rien pour moi. Tout est guérissable, même si nous ne savons pas comment pour l'instant. Tout, sauf la mort. Et que ferais-tu à ma place, très cher ?»
Ninevé se demanda si Deigyan évitait délibérément de l'appeler par son prénom, ou si c'était un effet de leur étrange relation. Utiliser « ma fille » ou « mon enfant » comme face à une acceptée était impossible. mais lui donner du Ninévée aurait été un aveu d'égalité.
« Je peux t'aider, »
répéta l'ancienne sage-dame.
« Le chagrin que tu éprouves doit être un effet du lien, donc un phénomène en rapport avec le pouvoir. Si le Saïdar te fait souffrir, il peut aussi te soulager. « Et pourquoi devrais-je l'être ?»
demanda Deigyan.
« Eh bien, souffrir est désagréable, non ? Et c'est normal, Eben est mort. Ton géant de mari, tu voudrais l'oublier s'il t'arrivait de le perdre ? Tu aimerais qu'on t'arrache tes sentiments pour lui comme on retire une tranche pourrie d'un rôti par ailleurs excellent ?»
Ninévée ouvrit la bouche et la referma. Voudrait-elle ça ? Ce n'était pas si simple. Ses sentiments pour Lan étaient sincères, mais induits par un lien. Ce géant était son mari et elle l'aimait. Deigyan s'était montré possessive avec son champion, mais c'était l'affection d'une tante pour son neveu favori. Rien à voir. Pourtant, si ça lui arrivait, Ninévée aurait-elle voulu qu'on lui vole son chagrin ? Soudain, elle mesura combien la position de Deigyan était honorable.
« Je comprends, et je m'excuse. Ce n'est rien, très cher. Pour moi, c'est logique, mais je crains que ce soit difficile à avaler pour les autres. D'aucunes diraient que la logique est une notion relative qui dépend de la situation et de l'individu. Dois-je te montrer le tissage suivant ?»« Oui, merci. »
Ninévée était si puissante dans le pouvoir, une des plus puissantes femmes vivantes, qu'elle prenait souvent son don à la légère, comme s'il était banal. Un type très grand, par exemple, se souciait rarement de la hauteur des autres. Puisque tous les gens étaient plus petits que lui, qu'importaient leurs différentes tailles. Qu'est-ce que ça faisait d'être Deigyan ? D'avoir porté la robe d'accepter plus longtemps que quiconque dans l'histoire connue ? D'être devenu péniblement une Aes Sedai, et ce, comme le murmuraient beaucoup, d'extrême justesse. En conséquence, elle devait se montrer déférente avec toutes les autres sœurs. Chaque fois qu'elle en croisait une, c'était pour être la plus faible. Et quand elle en rencontrait deux ou plus, elle servait les infusions. Devant les sœurs les plus puissantes, on s'attendait à la voir ramper. Enfin, non, ça n'allait pas jusque-là, mais...
« Deigyan, »
dit Ninévée,
« quelque chose cloche dans ce système. Tu parles de l'épreuve ? Il semble normal qu'il y ait un examen. Réaliser des tissages ardus dans des conditions défavorables me paraît très efficace. Je ne parlais pas de ça, mais de notre hiérarchie. La façon de déterminer nos rapports sociaux. »
Deigyan rosit un peu. Même très indirectement, il était inconvenable de faire allusion à la puissance d'une sœur. Mais Ninévée n'avait jamais été du genre à se plier aux attentes des autres. Surtout quand elles étaient idiotes.
« Tu en sais aussi long que n'importe quelle Aes Sedai, »
insista-t-elle.
« Peut-être même plus long. Et dès qu'une acceptée à peine sortie des jupes de sa mère obtient le châle, tu dois lui obéir servilement. »
Deigyan vira à l'écarlate.
« Nous devrions continuer. »
Ce n'était pas juste, mais Ninévée abandonna. Quand elle avait formé les femmes de la famille afin qu'elles tiennent tête aux Aes Sedai, elle était tombée dans un piège semblable. Très vite, les naturels lui avaient également tenu tête, ce qui n'était pas prévu à son programme. Du coup, elle n'était pas certaine de vouloir provoquer une révolution parmi les Aes Sedai. Elle essaya de se concentrer sur la leçon, mais l'imminence d'une terrible tempête la forçait à tourner fréquemment la tête vers la fenêtre. Du second niveau, on avait une excellente vue sur le camp, devant le manoir. Par le plus grand des hasards, Ninévée aperçut Katsuene, son chignon gris orné de terrang réal à l'aspect innocent reconnaissable de très loin. À pas vif, la légende traversait le site en compagnie de Corel.
« Que fait-elle encore ?»
se demanda Ninévée. Cette démarche rapide attisait ses soupçons. Que s'était-il passé ? Une autre histoire avec Rand ? S'il s'était encore blessé ?
« Excuse-moi, Deigyan, »
dit l'ancienne sage-dame en se levant.
« Je viens de me souvenir d'une urgence. Vraiment, ce n'est pas un problème, Ninévée. On reprendra un autre jour. »
Quand elle fut sortie de la pièce, puis eut dévalé les marches, l'ancienne sage-dame s'avisa que Deigyan l'avait enfin appelée par son prénom. Souriante, elle sortit du manoir et entreprit de traverser le camp. Tout de suite, elle vit que des aïels allaient et venaient au milieu des tentes. En soi, ça n'avait rien d'étrange, puisque des promises veillaient jalousement sur Rand. Mais là, il s'agissait d'hommes en cas d'insort. Leurs lances glissaient dans le harnais de l'étui de leur arc. Une majorité arborait le bandeau orné du symbole de Rand. Voilà pourquoi Katsuane se hâtait. Si les chefs de tribu étaient arrivés, Rand devait être sur le point de les rencontrer. Ninévée accéléra le pas. Rand ne l'avait pas fait prévenir. Sans doute pas parce qu'il voulait l'exclure, mais parce qu'il était trop sûr de lui pour y penser. Dragon réincarné ou pas, il lui venait rarement à l'esprit de partager ses plans avec les autres. Pourtant, après si longtemps, il aurait dû savoir que les conseils d'une personne plus expérimentée étaient précieux. À cause de sa précipitation, combien de fois avait-il été enlevé, blessé ou jeté en prison? Dans le camp, tout le monde s'inclinait devant lui, mais Ninevé savait la vérité. Au fond, il n'était qu'un berger de champs des mondes. Comme à l'époque où Matrim et lui multipliaient les bêtises, il se fourrait sans cesse dans la mouise. Mais aujourd'hui, au lieu de faire rougir les filles du village, il avait le pouvoir de semer le chaos dans des nations entières. Dans le coin nord du camp, juste en face du manoir et à côté de la fortification, les aïels récemment arrivés dressaient leurs tentes. Contrairement aux hommes de Bachéré, friands de belles rangées bien droites, les hommes du désert disposaient par petits groupes, les divers ordres guerriers. En passant, certains soldats du Saldaéa les saluaient, mais aucun ne faisait mine de leur donner un coup de main. Les aïels n'étaient pas des gens commodes, en moyenne. Et même si elle les trouvait moins irrationnels que les autres, les natifs du Saldaéa restaient des frontaliers. Les escarmouches contre les guerriers du désert avaient longtemps été leur pain quotidien. Et la guerre des aïels ne remontait pas à si longtemps que ça. Pour l'instant, tous ces hommes combattaient dans le même camp. Mais ça n'effaçait pas les vieilles rancœurs, ni une tendance aiguë à la méfiance. Ninevé chercha à rendre du regard, ou à défaut, un aïel qu'elle connaissait. Avienda, supposait-elle, ne serait pas là, puisqu'elle résidait à Kemlin, où elle aidait Elaine à s'assurer le trône d'Andorre. Ninevé se sentait toujours coupable de les avoir abandonnés, mais il fallait bien que quelqu'un aide Rand à purifier le Saïdin. Le laisser faire seul aurait été suicidaire, pas vrai? Mais là, où était-il? Ninevé s'immobilisa à cheval sur le camp des lanciers et celui des aïels. Des types moustachus la saluèrent de la tête, plein de respect. En ocre et vert, des aïels arpentaient le camp, leurs mouvements fluides comme l'eau. Près du manoir, des femmes en tenue bleue et vert revenaient du ruisseau avec du linge propre. Au gré de la brise, les aiguilles de pin ondulaient. Le camp grouillait d'activité comme la place de Champ des Mondes pendant la fête de Beltine. Dans quelle direction était allé Katswané? Au nord-est, quelqu'un canalisait le pouvoir. Souriante, Ninevé se mit en chemin d'un pas déterminé. Le Saïdar ne pouvait être manié que par une Aes Sedai ou une matriarche. Comme de juste, elle vit très vite une tente aïelle plus grande que les autres et dressée dans un coin du camp. Elle fonça, son regard, ou peut-être sa réputation, incitant les soldats à lui dégager le chemin. Et les promises qui gardaient le rabat ne tentèrent pas de l'arrêter. Sous la tente, en tenue noire et rouge, Rand, main gauche dans le dos, étudiait les cartes déroulées sur une solide table de bois. À ses côtés, Bachéré hochait la tête tout en scrutant une carte plus petite qu'il tenait à bout de bras. Dès qu'il aperçut Ninevé, Rand leva les yeux. Quand avait-il commencé à ressembler à un champion, avec ce regard évaluateur si caractéristique? Des yeux qui captaient toutes les menaces, et un corps tendu comme s'il redoutait à tout moment une attaque. Je n'aurais jamais dû laisser cette femme l'arracher à Derrière. Quand je vois ce qu'il est devenu. Ninevé eut instantanément honte de sa propre stupidité. Si Rand était resté à Deux-Rivières, sombrant dans la folie, il aurait peut-être tué tout le monde. En supposant que les Trollocs, les Blafards ou les Rejetés ne s'en soient pas chargés avant. Si Moiraine n'était pas venu le chercher, Rand serait mort depuis longtemps. Et avec lui aurait disparu l'espoir et la lumière du monde. Bon sang. Qu'il était dur de renoncer à ses préjugés.
Ninevé!
Lança Rand en se détournant des cartes. Il indiqua à Bachéré d'en étudier une, puis fit face à l'ancienne sage-dame.
J'allais te faire prévenir. Rouark et Baël sont ici.
Ninevé arqua un sourcil et croisa les bras.
Sans blague! En voyant tous ces aïels, j'ai cru que les Shaido nous attaquaient.
Vexé par ce ton, Rand se rembrunit, son regard gris, dangereux. Mais il secoua la tête comme s'il voulait s'éclaircir les idées. Un instant, le bon vieux Rand, celui qui n'était qu'un berger, sembla être de retour.
« Oui, bien sûr. Ça n'avait pas pu t'échapper. »
s'excusa-t-il.
« Je suis content que tu sois là. Dès que les chefs seront revenus, nous commencerons. J'ai insisté pour qu'ils supervisent l'installation de leurs guerriers, avant. »
Rand invita Ninevé à s'asseoir, sur un coussin posé à même le sol, car il n'y avait pas de siège. Les aïels n'aimaient pas ça, et leur hôte entendait leur être agréable. Ninevé dévisagea le jeune homme, surprise par sa propre équanimité. Influent ou pas, Rand Alter n'était qu'un berger stupide de Deux-Rivières. Cela dit, Il ne fallait pas sous-estimer cet éclair dans ses yeux. De la colère à l'état pur. Cindre une couronne, disait-on, changeait un homme, et rarement en bien. Elle entendait s'arranger pour que ça n'arrive pas à Rand. Mais s'il décidait de la jeter en prison, que pourrait-elle faire? Bon, il n'irait jamais jusque-là, quand même. Pas lui.
Selon ses mirages, il est fou, allié. Qu'a-t-elle dit déjà? Il entend des voix venues de sa vie antérieure. C'est pour ça qu'il incline parfois la tête, comme pour écouter quelque chose qu'il est seul à entendre.
Ninevé frissonna. Mine était sous la tente, bien entendu. Assise dans un coin, elle lisait un livre intitulé « Le sillage de la dislocation ». Mais elle fixait l'ouvrage avec trop d'intensité. En fait, elle n'avait pas perdu une miette du dialogue entre Rand et l'ancienne sage-dame. Que pensait-elle du nouveau Rand Altor? Mine était plus proche de lui que quiconque. Si proche, à dire vrai, que Ninevé, s'ils avaient été à Champ des Mondes, les aurait gratifiés d'un sermon qu'il n'aurait pas été prêt d'oublier. Bien qu'il ne soit plus à Champ des Mondes et qu'elle n'ait plus rien d'une sage-dame, elle n'avait pas manqué d'afficher sa désapprobation. Pour s'attirer une réponse très simple. « Si je l'épouse, ma mort lui fera encore plus de peine. » Du pur crétinisme, évidemment. Quand on prévoyait de risquer sa vie, c'était une raison de plus pour se marier. Enfin, ça tombait sous le sens. Ninevé s'assit sur un coussin, arrangea sa jupe et, délibérément, évita de penser à l'âne. Il avait tant de chemin à parcourir et elle devait absolument récupérer son lien avant qu'il ait atteint la flétrissure, juste au cas où. Soudain, Ninevé se redressa, le dos bien droit. Katswanée, elle n'était pas là. Si on oubliait les gardes sous la tente, il n'y avait que Rand, Ninevé, Mine et Bachéré. La légende était-elle en train de préparer un des coups tordus qu'elle... Vêtue d'une robe ocre très simple, l'Aes Sedai aux cheveux gris entra à l'instant même. Pour attirer l'attention, elle comptait sur sa prestance et sur les ornements dorés de son chignon, pas sur ses vêtements. Comme de juste, Corel la suivait. Lorsque Katswanée tissa un bouclier de silence, Rand n'émit pas d'objection. Une passivité regrettable. Cette femme l'avait quasiment apprivoisée et lui déléguait bien trop de responsabilités. Par exemple, l'interrogatoire de ses mirages. Les rejetés étaient trop puissants et dangereux pour qu'on les prenne à la légère. Dès sa capture, ses mirages auraient dû être calmés. Ninevé savait de quoi elle parlait, après avoir eu Mogadienne pour prisonnière. Corel sourit à l'ancienne sage-dame. Rien de notable, car elle faisait risette à tout le monde. Katswanée, comme toujours, ignora superbement Ninevé. Comme ça lui chantait. L'épouse de l'âne avait nul besoin de son approbation. Grâce à son statut de doyenne, Katswanée pensait pouvoir donner des ordres à toutes les Aes Sedai. Hélas, Ninevé savait très bien que l'âge et la sagesse n'avaient aucun rapport. Au pays, Senbui, un croulant, était moins malin qu'un tas de pierres. Minute après minute, d'autres Aes Sedai et des officiers entrèrent sous la tente. Au fond, Rand avait peut-être bien envoyé des messagers, y compris à son ancienne sage-dame. Parmi les nouveaux venus, il y avait bien entendu Mérise et ses champions, au nombre desquels comptait la chamane Jar Narishma, avec ses clochettes au bout des tresses. Damer Flynn, Elsa Penfell et quelques subordonnés de Bachéré complétaient l'assistance. Rand jeta un coup d'œil à chaque invité, mais il se retourna presque aussitôt vers ses cartes. Devenait-il paranoïaque? Certains cinglés se méfiaient de tout le monde. Enfin, Rouark et Baël arrivèrent, accompagnés par d'autres aguels. Avec une souplesse de félin, tous se faufilèrent sous la tente. Dans le groupe, Ninevé identifia plusieurs matriarches, des femmes capables de canaliser dont elle ne parvenait jamais à sentir l'approche. Le plus souvent, chez les aguels, une réunion concernait les chefs de tribu ou les matriarches. Un peu comme à Champ des Mondes, avec le conseil du village et le cercle des femmes. Rand avait-il invité les guerriers et les femmes, ou avait-il décidé de venir ensemble pour une raison inconnue? Au sujet d'Avienda, Ninevé s'était fourré le doigt dans l'œil. Fermant la marche, la grande aguelle rousse était bel et bien là. Quand avait-elle quitté Camlin? Et pourquoi serrait-elle contre elle un morceau de tissu effiloché? Ninevé n'eut pas l'occasion d'interroger Avienda. Sans perdre une seconde, Rand invita les aïels à s'asseoir, ce qu'ils firent sans se faire prier. Quant à lui, il resta debout près de ses cartes, mains et moignons croisés dans le dos.
« Fais-moi un rapport sur ta mission en Arad-Doman, » dit-il sans préambule à Rouark. « Selon mes éclaireurs, la paix est loin d'y régner. »
Après avoir accepté une tasse d'infusion proposée par Avienda,
toujours tenu pour une apprentie, à l'évidence, le chef de tribu se tourna vers Rand, sans même tremper les lèvres dans le breuvage.
« Nous avons eu très peu de temps, Randaltor.
Je ne m'intéresse pas aux excuses, Rouark, mais aux résultats. » Plusieurs aïels prirent très mal cette remarque. Debout près du rabat, les inévitables promises se parlèrent par signes avec une rare frénésie. Rouark ne perdit pas son sang-froid, même si Nineveh aurait juré qu'il serrait plus fort sa tasse.
« J'ai partagé de l'eau avec toi, Randaltor, si tu m'as fait venir pour m'insulter. »
« Ce ne sont pas des insultes, Rouark, mais des vérités. Nous n'avons pas de temps à perdre. »«
Pas de temps, Randaltor ?»
demanda Baël. Très grand, le chef des aïels gauchiennes dominait tout le monde, même quand il était assis.
« Beaucoup d'entre nous, tu les as laissés en Andorre, avec pour seule tâche de polir leurs lances et de faire peur aux pleutres des terres mouillées. Puis tu nous as envoyés ici, avec des ordres impossibles à exécuter. » Et quelques semaines après, tu exiges des résultats.
Vous étiez en Andorre pour aider Elaine, rappela Rand.
Elle n'avait pas besoin d'aide, grommela Baël, et elle n'en voulait pas. À raison, selon moi. Plutôt que de recevoir d'une tierce personne autorité sur ma tribu, je préférerais traverser notre désert sans une goutte d'eau.
Rand se rembrunit, les yeux lançant des éclairs. De nouveau, Nineveh pensa à la tempête qui couvait au nord.
« Le royaume où tu nous as envoyés est dévasté, Randaltor. »
intervint Rouark, plus serein que Baël.
« Le souligné ne revient pas à chercher des excuses. Pareillement, aborder prudemment une tâche difficile n'est pas de la lâcheté. »«
Ici, » grogna Rand, « il faut que la paix règne. Si vous ne pouvez pas... »«
Mon garçon, » dit Katswane, « si tu prenais le temps de réfléchir, combien de fois les aïels t'ont-ils déçu, hein ? En revanche, combien de fois les as-tu trahis, blessés ou offensés ? »
Rand en rabattit aussitôt, et Nineveh se maudit de ne pas avoir tenu elle-même ce discours. Elle regarda la légende qui trônait sur une chaise, posait ses fesses sur le sol, elle, jamais. À l'évidence, la chaise venait du manoir, fabriquée à partir d'andouillés d'Elgilrim, des bois qui évoquaient irrésistiblement la forme d'une paume ouverte, elle était munie d'un coussin rouge. Avienda tendit à la légende une tasse d'infusion qu'elle accepta, huma délicatement et goûta. Non sans effort, Rand parvint à se contrôler.
« Je m'excuse, Rouark. Même chose, Baël. Ces derniers mois m'ont éprouvé. »«
Aucun taux n'est requis, » répondit Rouark. « Mais assieds-toi avec nous. Partageons l'ombre et conversons courtoisement. »
Rand soupira, acquiesça, et s'assit face aux deux chefs. Les matriarches présentes, Amis, Mélaine et Beyr, ne semblaient pas enclines à participer au débat. Des observatrices. Comme elles, s'avisa Nineveh.
Mes amis, il faut que la paix règne en Arad-Doman.
Sur le tapis, Rand déroula une carte.
Dobrein Taborwin a fait du très bon travail à Bander Eban, dit Baël. Mais Rouark a raison. Ce pays est dévasté, en miettes comme une porcelaine du peuple de la mer jetée du haut d'une montagne. Tu nous as dit de découvrir qui commandait et de rétablir l'ordre. Eh bien, sauf erreur de notre part, personne ne commande. Chaque ville est livrée à elle-même. Et le conseil des marchands ?
Demanda Bachéré, en s'asseyant près de Rand pour étudier lui aussi la carte.
Selon mes éclaireurs, cette institution garde de l'influence. « Dans certaines villes, c'est exact, » répondit Rouark. « Mais cette influence est faible. Dans la capitale, il n'y a plus qu'une conseillère et elle ne contrôle plus rien. Nous avons mis un terme au combat de rue, mais ça n'a pas été simple. »
Il secoua la tête.
« Voilà ce qui arrive quand on ne se contente pas de diriger une tribu et une forteresse. Privés de leur roi, ces domanies ne savent plus à qui obéir. »«
Où est-il, le souverain ?»
demanda Rand.
« Personne ne le sait, Randaltor. Il a disparu. Depuis des mois, disent certains, mais d'autres parlent d'années. »«
Graenda le détient peut-être, »
souffla Rand, les yeux toujours baissés sur la carte.
« Si elle est en Arad-Doman. Moi, c'est ce que je crois. Mais où ? Au palais royal ? Non, ce n'est pas son genre. Elle doit avoir un fief ou pouvoir exhiber ses trophées. Un lieu qui soit un trophée en soi n'est pas évident, afin qu'on n'y pense pas tout de suite. »
Oui, je vois. Vous avez raison. C'est sa façon de procéder.
une telle intimité avec les rejetés. Nénévé en frissonna, alors qu'Avienda s'agenouillait devant elle, lui tendant une tasse. Nénévé la prit, croisa le regard de Layel et voulut lui murmurer une question. Avienda secoua la tête. « Plus tard », semblait-elle vouloir dire. Puis elle se leva, se retira au fond de la tente, prit son carré de tissu effiloché et entreprit de retirer les fils un par un. À quoi ça rimait donc ?
« Katsuane, » dit Rand, cessant de murmurer. « Que peux-tu nous dire du conseil des marchands ?»«
Pour l'essentiel, il est composé de femmes. Très intelligentes, je dois dire. Cela précisé, elles sont très égoïstes. Il leur revient de choisir le roi, et elles devraient avoir trouvé un remplaçant à Al-Salam. Trop d'entre elles voient cette situation comme une occasion à saisir, et ça les empêche de se mettre d'accord. Dans le chaos ambiant, elles ont dû se séparer afin de consolider leur pouvoir dans leur ville natale. Luttant pour conserver leur position, elles sont en quête d'alliance, chacune proposant son propre candidat pour le trône. En d'autres termes, le désordre risque de durer.
Et l'armée d'Omani qui combat les Séanchaniens, c'est l'œuvre du conseil ?
Je ne saurais le dire.
Tu parles de l'homme nommé Rodel Itourald ?
Demanda Rouark.
Oui, confirma Rand.
Il s'est très bien battu il y a 20 ans. C'est un des grands capitaines, comme vous les appelez. J'aimerais danser avec les lances face à lui.
Mais tu ne le feras pas,
lâcha Rand.
Pas de mon vivant, en tout cas. Nous allons pacifier ce pays.
Et tu penses que nous le ferons sans violence ?
Intervint Baël.
Ce Rodel Itourald, dit-on, se bat comme un lion contre les Séanchaniens, qui le détestent encore plus que toi, Randaltor. Il ne fera pas la sieste pendant la conquête de son pays.
Encore une fois, rappela Rand, nous ne sommes pas ici pour conquérir.
Alors, pourquoi nous as-tu envoyés ?
Soupira Rouark.
Utilise tes Aes Sedai, qui connaissent les couards des terres mouillées. Ce pays est comme un royaume peuplé d'enfants, et nous sommes trop peu d'adultes pour leur apprendre à obéir, particulièrement si tu nous interdis de leur flanquer des fessées.
Vous serez autorisés à combattre, dit Rand, mais seulement quand ce sera inévitable. Rouark, désormais ça dépasse les capacités des Aes Sedai. Vous devez le faire. Les gens ont peur des Aiel, donc ils vous obéiront. Si nous parvenons à arrêter le conflit entre les Domani et les Séanchaniens, la fille des Neuf Lunes comprendra peut-être que je désire vraiment la paix. Alors, elle acceptera de me rencontrer.
Pourquoi ne procèdes-tu pas comme d'habitude ?
S'étonna Baël.
Prendre le royaume, tout simplement.
Bachéré approuva du chef.
Cette fois, ça ne réussirait pas. Et livrer une guerre ici nous coûterait trop de ressources. Ce général Itourald, il tient tête aux Séanchaniens alors qu'il n'a presque plus de vivres et d'hommes. Vous voudriez affronter un type pareil ?
Bachéré plissa le front, comme s'il réfléchissait effectivement à se lancer dans l'aventure.
« Les hommes !» pesta intérieurement Nineve. « Tous les mêmes !»
Devant un défi, ils frétillaient, comme si le relevé promettait de leur coûter la vie.
« Très peu d'hommes en ce monde sont au niveau de Rodel Itourald, » dit Bachéré. « Pour notre cause, il serait un précieux soutien. Je me suis toujours demandé si je réussirais à lui faire mordre la poussière. »
« Pas question d'essayer !»
fit Rand, se penchant de nouveau sur sa carte. D'après ce qu'envoyait Nineve, elle montrait des concentrations de troupes. Les Aiel, à la pointe de la rade d'Oman, étaient représentés par des marques noires. Dans la plaine d'Almoth, les forces d'Itourald faisaient face aux Séanchaniens. Au milieu du royaume, les troupes personnelles d'une myriade de nobles étaient dispersées anarchiquement.
« Rouark et Baël, » dit Rand, « je vous charge de capturer les membres du Conseil des marchands. »
Un lourd silence s'abattit sur la tente.
Tu es sûr que c'est judicieux, mon garçon ?
Demanda Katsuane après un long moment.
Ces gens sont menacés par les rejetés, dit Rand en tapotant la carte. Si Graendal a vraiment enlevé Al-Salam, le récupérer ne nous mènera à rien. Soumis à la coercition, il ne serait guère plus qu'un gamin sans volonté. Cette rejetée n'est pas subtile, et elle ne l'a jamais été. Nous avons besoin du conseil pour qu'il choisisse un nouveau roi. C'est la seule façon de ramener la paix et l'ordre.
Un plan audacieux,
dit Bachéré.
Nous ne sommes pas des ravisseurs, grogna Baël.
Vous êtes ce que je dis que vous êtes, Baël,
rappela Rand.
Non, nous restons un peuple libre,
objecta Rouark.
Avant de quitter ce monde, j'aurai transformé les Aiel. J'ignore ce que vous serez quand tout sera fini, mais vous ne resterez pas tel que vous êtes. Cette mission, c'est à vous que je la confie. De tous mes partisans, vous êtes les plus fiables. Si nous voulons réussir à capturer les membres du Conseil sans aggraver la guerre, il nous faudra votre ruse et votre furtivité. Comme dans la pierre de Théar, vous vous infiltrerez dans les palais et les manoirs.
Rouark et Baël se regardèrent, les sourcils froncés.
Une fois le Conseil entre nos mains, continua Rand, insensible aux inquiétudes de ses alliés, faites entrer vos Aiel dans les cités que dirigeaient ces marchands. À tout prix, évitez qu'elles sombrent dans l'anarchie. Rétablissez l'ordre, comme à Bendar et Ban. Après, traquez les bandits et consolidez la loi. Des vivres vous parviendront très vite, apportés par le peuple de la mer. Commencez par les villes côtières, puis enfoncez-vous dans les terres. D'ici à un mois, il faut que les Domani viennent vers vous au lieu de vous fuir. Offrez-leur sécurité et nourriture, et l'ordre viendra tout seul.
Un plan curieusement rationnel, dut reconnaître Nineveh. Pour un homme, Rand était vraiment futé. En lui, il y avait beaucoup de bon, peut-être même l'âme d'un chef, s'il parvenait à contrôler son caractère de feu. Rouark se massa longuement le menton.
« Davram, ma chérie, si nous avions une partie de tes hommes, ça nous aiderait beaucoup. Les gens des terres mouillées n'aiment pas se rallier à des Aiel. S'ils peuvent croire que des mouillés dirigent les opérations, ils viendront à nous plus facilement. »
Bachéré éclata de rire.
Nous ferons aussi de jolies cibles. Dès que nous aurons capturé quelques membres du conseil, les autres enverront des tueurs à nos trousses. Ça ne fait pas un pli.
Rouark rit comme s'il s'agissait d'une bonne blague. Chez les Aiel, le sens de l'humour restait énigmatique.
Nous vous garderons en vie, Davram Bachiré. Et si nous échouons, nous vous empaillerons. Perchés sur vos chevaux, vous ferez effectivement de très belles cibles.
Baël rit aux éclats. Près du rabat, les promises remuèrent frénétiquement les mains. Même si l'humour des alliés de Rand le dépassait, Bachiré s'autorisa un sourire.
Rand, tu es sûr que c'est ce que tu veux?
Sûr et certain. Divise tes forces et répartis-les entre les groupes d'Aiel, selon le désir de Rouark.
Et Ithurald?
Demanda Bachiré, les yeux de nouveau baissés sur la carte.
Dès qu'il aura compris que nous envahissons sa patrie, la paix volera en éclats.
Rand tapota une nouvelle fois sur la carte.
Je me chargerai de lui en personne, lâcha-t-il.